Je m'appelle François Billon. Et puis, je suis prof de français. Et c'est à ce titre-là, en fait, que j'ai été recruté. C'était parce que je m'intéressais à la littérature. Bon. Et puis, un jour, Jean vient me voir, puis il dit, on pourrait faire quelque chose autour d'une radio libre. C'était un mot magique à l'époque, radio libre. Hein. C'était vraiment libre. Et puis, c'était un peu avant 80, avant que ça se libère vraiment. Donc, je crois que la première année, ça avait un petit statut comme ça, clandestin. Et tout le temps que la loi passe, que Mitterrand fasse voter la loi, qu'on rédige les décrets d'application, tout ça, il y a eu un moment où on avait l'impression d'être un peu comme ça, clandestin. Et j'étais en train de me rappeler un soir, c'était les événements de Pologne. Et on est venu ici dans la soirée pour en parler, mais c'était dans la soirée vers minuit, 1h du matin. On a fait quelque chose en direct en disant ils ont osé faire ça, ils ont osé faire un coup d'État. C'était Jaruzelski, des choses comme ça. Et donc on avait l'impression de participer à l'histoire en direct. C'était un peu un fantasme, mais c'était pas désagréable. Ça a commencé comme ça, quoi, dans une semi-clandestinité.
Est-ce que donc vous avez participé un peu à l'élaboration? Vous étiez dans les premiers, la petite dizaine qui était à l'origine du projet. Est-ce que vous pouvez nous dire de ce qui vous motivait à participer à ce projet? Donc vous disiez une sorte de participation aussi à tout ce qui est événement de société.
Oui, c'était participer à l'histoire, bon, un peu sur le mode du rêve. Et puis plus concrètement, c'était donner la parole aux gens qui ne l'ont pas. Alors, on n'en était pas encore aux médias bétonnés d'aujourd'hui, bétonnés dans la forme et dans la sélection des personnages qui apparaissent. Mais déjà, on sentait qu'il y avait des gens qui n'avaient pas accès à leurs propres paroles. Donc, l'idée, c'est pour moi, hein, j'étais pas trop musique. Jean avait sa musique. C'est pour ça qu'un jour, on a fait une émission, on était à deux. On lui passait des musiques hallucinées, enfin les siennes, quoi. Et puis, moi, je faisais une revue de presse. Ça devait être le dimanche matin. Je faisais une revue de presse en direct de la semaine. Et on improvisait ça. Et au fur et à mesure que je... Lui, il ne savait pas ce que j'allais dire. Et au fur et à mesure que je balançais du texte, lui amenait des musiques. Et on a fait quelques dimanches qui étaient quand même... dont je ne suis pas mécontent du souvenir. Ça, c'était un jeu. Mais après, on a fait une autre émission où on pas beaucoup. On faisait parler quelqu'un pendant 2 heures et on faisait pareil. J'interviewais quelqu'un. Il passait de la musique. Je ne le connaissais pas. Et on faisait connaissance comme ça au fur et à mesure. Et quelque chose se dévoilait entre les questions, les réponses, la musique. Quelque chose se passait. Et c'était le charme d'inventer quelque chose en direct et ensemble. Et ça, j'aimais bien ça, c'était mon idée. Le prétexte, et puis après, il y avait autre chose. Il y avait... Mais ça, j'en suis pas très heureux, quoi. Je lisais de la poésie, parce qu'en fond, on en lit jamais, on en entend jamais. Mais c'était presque plus intéressant d'entendre la parole des gens. Elle est plus poétique, la parole des gens qui parlent jamais, que de lire des textes qui sont déjà écrits, même si on peut réinventer une diction ou une rencontre.
Est-ce que vous vous souvenez des noms des émissions et puis un peu peut-être des créneaux que vous avez animés?
Je me souviens pas des noms des émissions. Il faudrait demander à Jean. Peut-être l'émission de rencontre, ça devait s'appeler thé au café ou un truc comme ça. C'était bon, comme vous m'avez fait, quoi. Vous prenez un thé ou un café là, puis on parle, puis on oublie qu'il y a la radio, on oublie que quelqu'un écoute. Et ce quelqu'un écoute peut oublier qu'il passe à travers un média. Quoi. Thé ou café. Sur la poésie, je me souviens plus du tout. Il me revient un mot qui était poète-poète. Ça faisait poète-poète, quoi. Et parce que je voulais pas d'une poésie en cravate, d'une poésie solennelle. Je voulais quelque chose qui passe, ou bien. Mais c'est déjà une idée du passé. En fait, ce qui serait drôle maintenant, c'est d'inviter quelqu'un. Moi, je pense, j'ai encore des élèves, quoi, de balancer des textes sur la table et puis de les écouter parler. Et là, on aurait des choses un peu amusantes, quoi. Voilà, ça tournait autour de la littérature. Je me souviens un jour d'avoir fait une rencontre, mais c'était avec un grand spécialiste du roman policier, et on avait interviewé Benaki Star, je crois. Et là, c'était pareil, c'était une rencontre. Ça, c'était intéressant.
Est-ce que vous avez senti une sorte de, disons, de difficulté entre, quelque part, un projet qui était idéaliste à la base, et puis ensuite des contraintes techniques de réaliser vraiment des émissions avec aussi toute l'organisation, et puis oui, les contraintes techniques que ça impose?
Oui, ça c'est quelque chose de très intéressant. Il y a deux niveaux de réponse. Il y a le projet primitif de Jean, un animateur faisait aussi la technique. Donc il a essayé à une période de me faire passer les disques. Et ça a toujours été une catastrophe. c'était les limites d'une compétence, là. Donc ça, c'était un rêve où, un peu comme dans les troupes de théâtre où chacun fait tout. Hein, où on hiérarchise pas et chacun fait tout. Donc l'idée est très bonne. Sauf qu'en ce qui me concerne, ça avait vraiment des limites. Bon, il y avait ça c'est. Et puis après, il y a dans le projet général, c'est de passer du statut de bande à le statut d'une institution. Maintenant, PFM est quand même une institution. Et puis il y a eu tous les problèmes. Du positionnement par rapport à la loi. Une fois qu'une loi existe, il faut y trouver sa place. Et on sait que on sait ce que sont devenues les radios libres commerciales. Et là, on peut avoir des. Je ne crois pas qu'on puisse avoir des regrets sur le fait que ouvrir comme ça à la liberté de l'entreprise, c'est arriver à une entreprise nécessairement commerciale. C'est peut-être pour moi, du point de vue théorique, la chose la plus grave que j'ai appris, quoi, que j'ai apprise. On peut pas, dès qu'on réflue dans une société où la technologie est importante, il y a un moment où il faut penser l'argent d'une certaine façon. Et ça c'est l'épreuve de la réalité.
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire précisément sur ce point-là.
Il y a un moment, quand on bricole entre copains et que chacun se débrouille pour amener ce qu'il sait faire avec les outils qu'il a, les moyens financiers sont pas, enfin, la pensée sur le financement n'est pas le souci majeur de l'équipe. C'est un problème, mais ce n'est pas le souci majeur. Si on pense la durée, si on pense en termes d'influence, en termes de permanence, et puis en termes de loi, c'est-à-dire si on fait une entreprise, là les problèmes deviennent plus complexes et il faut les penser autrement. Et c'est l'articulation, le rapport, la tension qu'il y a entre le désir de chacun et puis la réalité économique que ça suppose, qui va faire problème, puis qui va faire aussi, qui va obliger les gens à imaginer une solution nouvelle. Quitte à, pour les uns, à trahir le désir primitif, et donc on fait une radio libre financée par la pub, par le machin, et on rentre dans... Ben, je dis pas on rentre dans le système. On rentre dans un système, ou bien on garde cette tension en permanence pour sauvegarder l'esprit. C'est plus compliqué et c'est aussi intéressant. Mais ça demande aussi plus d'investissement. Or l'investissement, quand on est bénévole, il y a un moment où il y a le temps, les obligations professionnelles, puis le cheminement personnel qui fait qu'on va, peut-être choisir d'autres voies.
Justement, vous, qu'est-ce qui vous a amené à, à arrêter la radio ?
Il y a deux choses. Il y a vraiment que la première chose, je crois, c'était simplement que j'avais plus le temps. J'avais pas le temps de rendre une émission permanente en rencontrant des gens pour les interroger. Donc il fallait que je compte sur quelqu'un d'autre pour m'amener des gens. Et c'était difficile. Ça, c'est juste un problème de gestion de temps. Ensuite, dans mon parcours personnel, il y a un moment où j'avais plus envie de parler. Je n'avais plus envie de parler. Donc quelque part, la radio, c'est embêtant.
Pour être prof aussi, non ?
C'est pas pareil, parce qu'il y a des obligations. Il y a des obligations, et puis vous rencontrez les gens. C'est-à-dire que vous êtes prof, vous avez des personnes devant vous, et donc leur désir ou leur besoin se fait immédiatement sentir. Mais c'est vrai que c'était un problème, de toute façon. Mais à la radio, il faut imaginer les gens. Hein ? Et il y a un moment où on est quand même dans un univers très clos, où on parle à des gens qui ne sont pas là. Et la demande se fait moins forte, et vous vous investissez ailleurs. Mais il n'y a pas d'autre... Je crois qu'il n'y a pas d'autre raison, quoi. Il y a un moment, il fallait que j'apprenne plus de choses que je ne pouvais en donner. Et donc, voilà.
Il semble que depuis la naissance de la radio, on sent que même que l'association, même le collectif qui a précédé l'association, a toujours eu une forte exigence démocratique avec des conseils d'administration parfois très longs, d'après ce que j'ai pu entendre, encore aujourd'hui très réguliers et très longs. Comment vous voyez un petit peu ça, ce fonctionnement ?
Ça, c'est compliqué. Moi, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Parce que ça assure la participation de chacun et le renouvellement des générations. Je pense que c'est très onéreux en temps, en énergie et en idées. Et je pense aussi que c'est devenu tellement étranger à la plupart du fonctionnement des associations que ça peut paraître comme ça un peu curieux. Mais c'est peut-être pour ça que c'est peut-être à travers cette dépense d'énergie-là que la radio se maintient, en renouvelant les gens. Et puis en faisant que celui qui ne peut pas s'intégrer à cet esprit-là s'en va, et puis que d'autres viennent, et puis que ça se renouvelle. Et c'est peut-être ce qui assure la jeunesse de l'esprit.
Alors justement, on parle du renouvellement au sein de cette radio. Donc vous étiez dès 81, donc à la création du collectif. Comment vous avez vu après l'arrivée d'une autre génération de radioteurs qui étaient peut-être eux moins dans l'idéalisme, mais plus intéressés par le média radio en lui-même et qui sont rapidement accaparés ce média. Comment est-ce que un peu les, je vais pas dire, c'est pas des clans, mais les différentes générations ont cohabité à l'époque?
Au moment où je participais, c'était pas, c'était un peu avant, quoi. Donc j'ai pas vraiment participé à l'évolution dont vous parlez. Donc je peux pas en dire grand-chose. À l'époque, je m'intéressais pas trop à ce genre de problème. J'étais plus radicalement rêveur qu'autre chose. Mais qu'il y ait une opposition, ben c'est bien. Dans la théorie, je trouve ça bien. J'ai peut-être pas envie de m'en occuper.
Est-ce que vous avez ensuite continué à suivre l'évolution de cette radio? Est-ce qu'aujourd'hui ça vous arrive de vous brancher sur cette fréquence?
Le problème, c'est que j'écoute plus du tout la radio. Je me suis mis à lire, puis en étant un peu plus fatigué, je n'écoute plus ni musique ni radio quand je travaille ou quand je lis. Donc ça me manque un peu. Ça me manque un peu. Mais je suis très content quand je vois une affiche, quand je vois quand je vois les 1er mai, quand je vois la foire au disque, je me dis tiens, ça continue, ça existe et ça me plaît bien. Même si je l'écoute pas, je suis content que ça existe.